Bienvenue à ce podcast Réfléchir l'éducation à voix haute. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir cinq étudiantes au doctorat. Donc, Émilie Saint-Pierre, Catherine Vachon, Sophie Nadeau, Alban Buriel et Pascaline Pacmoda. Avant de débuter la discussion, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour se présenter, donc dire peut-être un peu où vous en êtes rendu dans votre doctorat et dans quel domaine vous étudiez. Donc, je vais peut-être laisser la parole, je vais y aller par ordre des personnes à mon écran. Donc, Émilie Saint-Pierre, vous êtes la première, donc je vous donne la parole.
Donc, merci. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous là, pour partager ces belles discussions-là. Donc, moi, je suis au doctorat en éducation là, depuis peu, là, depuis le début de cette session-ci. Donc, c'est sûr que mon projet de recherche n'est pas encore très avancé, très élaboré. Est-ce que c'est à ce moment-ci que j'aborde plus principalement mon projet, à quoi est-ce qu'il fait référence? Ou...
Non, peut-être juste dire dans votre... Donc, vous êtes dans quel... À quelle place dans l'écriture de votre doctorat vous êtes à la problématique? Vous êtes en train de donner les cours? Vous avez vos données de recherche?
Parfait. Donc, actuellement, là, c'est sûr que, comme je dis, je suis plus au début. Là. Moi, en décembre dernier, je faisais pas de doctorat. Là. C'était même pas comme dans mon projet. Puis finalement, comme en travaillant comme assistante de recherche, tout ça, que mes professeurs, ils m'ont suggéré de faire ça. Donc, c'est vraiment au début là, de mon parcours doctoral. Donc, vraiment encore en train d'élaborer la problématique. Là.
Parfait. Merci, Émilie.
Merci.
Je vais donner la parole à Catherine Vachon.
Bonjour à toutes. On est tous des femmes, donc bonjour. Moi, j'en suis également à mon début de doctorat. Par contre, c'est la continuité de mon projet de maîtrise. Donc, même si j'en suis encore à l'élaboration de la problématique, j'ai une bonne idée de ce dont on va parler. Puis, j'ai quand même déjà énormément de ressources qui sont choisies, lues et disponibles pour enrichir ma recherche.
D'accord. Et c'est un doctorat en éducation?
C'est un doctorat en éducation également.
Merci beaucoup, Catherine. Et Sophie, maintenant. Sophie Nadeau-Tremblay.
Alors, exactement comme mes collègues Émilie et Catherine, j'en suis aussi au début de mon parcours doctoral, donc à la rédaction de ma problématique. Moi, dans le cheminement, je dirais qu'elle est réfléchie depuis longtemps, en fait, mes questionnements et mon sujet de recherche, puisque c'est vraiment issu de ma pratique professionnelle en enseignement. Donc, c'est aussi au doctorat en éducation.
Merci, Sophie. Alban, à vous la parole.
Oui, alors moi, je suis aussi candidate au doctorat en éducation. Et moi, je débute ma troisième année. Oui, c'est ça. J'ai commencé en septembre 2018. Troisième année. Voilà. J'en suis à ce stade-là, en fait, on a plus ou moins rédigé des premières versions des trois premiers chapitres, donc y compris la méthodologie. Et puis là, je rédige, on va dire, plus en longueur pour soumettre enfin mes trois premiers chapitres au projet doctoral. Donc, je suis dans la rédaction et donc je travaille plus dans l'éducation en situation d'urgence aussi. Mon milieu de pratique, ça fait suite à mes pratiques professionnelles.
D'accord. Merci, Alban. On va revenir plus tard sur les objets d'études. Et la parole est à Pascaline.
Oui, bonjour. Moi aussi, je suis au doctorat en éducation et je travaille sur le sentiment d'appartenance d'élèves en situation de handicap en milieu inclusif. J'ai commencé le doctorat il y a quand même un bon bout de temps. Je pense que j'ai commencé en automne 2016. Et là, je ne suis pas beaucoup, beaucoup avancée parce que c'est vrai qu'en temps, j'ai pris un congé. Mais là aussi, j'ai un peu changé comme de direction. Fait que je ne suis pas vraiment beaucoup avancée, même si j'ai de la matière. J'avais commencé à travailler sur les pratiques enseignantes, et là, je dirais pour le sentiment d'appartenance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais bon, je suis là-dedans. Merci.
Merci, Pascaline. On le voit bien, vous le savez, le chemin vers le doctorat, c'est un chemin qui est sinueux. Ça m'amène à ma prochaine question. Vous le savez, puis certaines d'entre vous, peut-être entre autres, Alban, parce qu'elle est plus avancée. Le doctorat, ça demande de l'énergie, des efforts, de la volonté, de la motivation. Puis, je me demande, quelles questions de recherche? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui vous passionne au point de justement mettre autant d'efforts, d'énergie? Qu'est-ce qui vous motive? Quelles questions vous motivent au point d'en faire un doctorat? Moi, ça, c'est quelque chose que je me demande. Donc, est-ce qu'il y a d'abord un volontaire, une volontaire? Hein? C'est Girl Power aujourd'hui. Oh, Alban a levé la main. Allez-y, Alban.
Voilà, c'est vrai que comme tu l'as dit, en fait, oui, je suis peut-être un peu plus avancée, mais c'est aussi, ça peut changer, c'est vrai que la question, en tout cas. Moi, je l'ai devant les yeux, alors je vais vous la lire. Comment et à quelles conditions des animateurs peuvent-ils conduire un dispositif de biographie artistique favorisant l'entrée en résilience et l'empowerment chez les jeunes qu'ils accompagnent? Et donc, moi, je travaille dans un contexte de humanitaire d'urgence, donc et plus particulièrement dans l'éducation en situation d'urgence. Donc, c'est quand une catastrophe naturelle ou un conflit, en fait, il y a des programmes humanitaires qui se mettent en place, en fait, dans les urgences. Et donc, il y a la santé, il y a l'alimentation, etc. Et puis, il y a l'éducation. Et donc, moi, je travaille auprès d'animateurs qui travaillent avec des enfants dans différents milieux. Et donc, on va travailler sur de la formation à travers une ingénierie didactique. Et du coup, voilà, c'est ma question. Qu'est-ce qui m'a fait... En fait, c'est ma passion pour... c'est ma passion pour l'éducation artistique, mais en sachant que l'éducation artistique, ça fait du bien. C'est bien connu, mais en même temps, c'est difficile à expliquer. C'est difficile d'avoir des preuves. Et pour ça, il faut y travailler par la recherche. Et aussi, comme je vous ai lu, donc c'est la résilience et l'empowerment, parce que il y a besoin de résilience. Il y a vraiment des besoins sociaux assez vifs, en fait, auprès des enfants, mais aussi des adultes. Donc, voilà les deux raisons qui m'ont conduit à cette question.
Merci, Alban. Et je trouve ça intéressant ce que vous dites, parce qu'on a souvent l'impression que l'art et la science s'opposent. Et dans ce que vous me dites, il semble pouvoir avoir une mesure des effets de l'art sur je crois que c'est les animations.
Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est justement ça qu'on va récolter à travers la pratique, à travers une analyse fine des pratiques, des interactions, des dispositifs aussi, des matériaux, comment on travaille sur des objets didactiques, comment en fait on va essayer de travailler en commun avec des animateurs pour produire des séquences en fait d'apprentissage. Et de les remettre en cause, de faire comme ce qu'on appelle de la design-based research, basée sur l'élaboration, en fait. Et donc, avec plusieurs essais comme ça, on va voir en fait comment on arrive à avoir un matériau qui paraît satisfaisant à tout le monde. Et du coup, quelles étaient les conditions, quels ont été les changements, etc. Du coup, c'est des choses qui se mesurent.
Merci, Alban. Est-ce qu'il y avait quelqu'une qui voulait poser une question à Alban? Non, c'était suffisamment clair. Merci, merci Alban. Est-ce qu'on a une deuxième volontaire? Oui, Émilie.
Moi, je peux y aller là, en deuxième. Justement, moi, j'ai un parcours un peu différent, là, je pense, des gens ici. Mais en fait, moi, je suis un bac en psychologie, une maîtrise en travail social. Là, je suis au doctorat en éducation. En fait, moi, à ma maîtrise en travail social, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait mon stage en milieu scolaire auprès d'adultes ayant des troubles de santé mentale. Puis c'était beaucoup cet aspect-là aussi du travail social qui m'intéressait, donc en milieu scolaire, mais également en lien avec les problèmes de santé mentale, les difficultés qui sont vécues par les adultes en milieu scolaire, en fait. Fait que j'ai fait ma maîtrise, en fait, moi, là, durant ma maîtrise, là, je viens de faire mon premier dépôt de mon mémoire, donc là, j'achève à ce niveau-là. Ce que j'ai documenté, en fait, c'est le parcours scolaire d'étudiants universitaires, principalement à l'UQAC, en fait, qui ont un diagnostic de trouble d'anxiété généralisée. Puis ce que je cherchais à voir, c'est de quelle façon est-ce que ce trouble-là, en fait, a eu une influence sur le parcours scolaire du primaire jusqu'à l'université, parce qu'on sait que le trouble d'anxiété généralisée, en fait, a des influences sur toutes les sphères de la vie des personnes, donc autant au niveau familial, personnel, scolaire, tout ça. Puis un peu aussi de faire ressortir, c'est quoi les recommandations de ces étudiants-là par rapport aux services, justement, pour améliorer les services, puis des conseils qu'ils auraient à donner à d'autres étudiants qui éventuellement voudraient faire des études universitaires qui ont un trouble d'anxiété généralisée. Donc, moi, c'était beaucoup ce champ-là qui m'intéressait justement d'aller voir les difficultés vécues par les adultes en milieu scolaire. Puis là, parallèlement à ma maîtrise, j'ai travaillé comme assistante de recherche justement pour Nathalie Sasseville-Marie-Pierre Baron, là, qui travaille actuellement sur le projet PASS, donc un projet qui vise à soutenir éventuellement la réussite éducative des jeunes autochtones du Saguenay-Lac-Saint-Jean par l'implantation d'une table de concertation justement dans cette visée-là. Puis mon projet, il s'inscrit en fait un peu en phase 2 de ce projet-là. Donc moi, ce que je veux faire, c'est un peu voir de quelle façon est-ce que cette table, les actions en fait posées par cette table de concertation-là vont permettre d'améliorer puis de mettre en place des stratégies éducatives qui sont réellement efficaces puis qui répondent réellement aux besoins des jeunes autochtones de la région. Donc, mon objectif, en fait, c'est d'aller questionner 10 acteurs qui soutiennent la réussite éducative des jeunes autochtones, possiblement ceux qui sont membres de la table de concertation. Également 10 jeunes autochtones de la région qui poursuivent des études postsecondaires en milieu urbain parce qu'on sait que non seulement ils ont un retard au niveau scolaire lorsqu'ils sont comparés aux élèves allochtones, mais également lorsqu'ils vont vivre en milieu urbain, ce qu'ils sont souvent obligés de faire pour poursuivre des études postsecondaires, bien, ils sont confrontés à des difficultés encore plus importantes, notamment des responsabilités parentales très tôt, des faibles statuts socio-économiques, différentes problématiques. Donc, je veux voir un peu ces jeunes-là, est-ce qu'ils considèrent que les services qui sont mis en place par la table de concertation, répondre réellement à leurs besoins, quels sont les services qui, eux, considèrent qu'ils devraient être mis en place, puis de quelle façon est-ce qu'ils devraient être modifiés pour s'adapter réellement à leurs besoins. Donc, je trouvais ça intéressant d'aller comparer un peu, les acteurs qui travaillent auprès d'eux, quelle est la vision qu'ils ont de leur réalité, puis de la comparer à la réalité que les jeunes ont eux-mêmes de leurs besoins, tout ça, pour s'assurer que, en fait, tout le monde ait une vision commune des choses, puis qu'on puisse s'assurer que les services répondent réellement aux besoins de ces jeunes-là.
Très intéressant. Souvent dans la recherche, ce qu'on remarque, c'est qu'on va proposer des solutions, puis on les mesure souvent très peu. Donc, je pense que dans votre recherche, c'est ce que vous voulez faire, en fait, se regarder, pouvoir mesurer l'effet de la table de concertation.
Oui, puis aussi, justement, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est que, oui, il y a des services en place pour les jeunes autochtones dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, beaucoup en silo. Puis beaucoup, les recherches sont faites sur les jeunes autochtones, soit qui, justement, n'offrent pas de continuum aussi au niveau des services, ou qui, en fait, on s'intéresse uniquement aux problématiques auxquelles ils sont confrontés, en donnant des statistiques, plutôt de niveau descriptif, mais on s'intéresse jamais nécessairement à leur point de vue directement à eux. Donc, on va souvent passer par le biais des intervenants, des gens qui travaillent et qui les côtoient au quotidien, mais sans directement les questionner. Donc, pour moi, c'était important là, de directement aller à la source, donc ceux qui vivent les difficultés, pour être sûr que ça réponde réellement à leurs besoins, et non pas qu'on leur impose encore quelque chose comme une éducation de style européenne qu'on leur impose de toute façon encore aujourd'hui, là.
D'accord, merci. Émilie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question, un commentaire? Oui, Sophie, la parole est à toi.
J'avais peut-être une question pour Émilie. La table de concertation, est-ce qu'elle est déjà en place? Dans quelle perspective elle va se mettre en place pour que toi, en plus, tu puisses te greffer finalement là, à cette collecte-là? Et elle va viser, en fait, les gens qui vont être autour de la table. Est-ce que ça va être des gens qui vont être uniquement dans l'éducation ou ça va être des gens vraiment multisectoriels?
Actuellement, on est comme à la phase 1 là, de la mise en place de la table de concertation. Donc, on est en train de mesurer les besoins, justement, là, des jeunes de la région. Puis de voir, là, actuellement, on a 10 entrevues. Je réalise ma 10e entrevue cet après-midi avec un étudiant postsecondaire là, autochtone, voir c'est quoi leur parcours scolaire, leurs études, leur but de carrière, leurs besoins de soutien s'ils en ont. Puis on a également des entrevues qui sont faites avec des jeunes du secondaire qui envisagent de quitter la communauté pour poursuivre des études postsecondaires. Donc encore là, voir leurs besoins. Est-ce qu'ils ont le soutien de leur famille? C'est quoi leurs besoins qu'ils envisagent d'avoir? Quels sont les besoins de soutien qu'ils ont eu déjà dans leurs études? Puis, d'un autre côté, on débute aussi des entrevues avec des acteurs qui soutiennent la réussite éducative des jeunes autochtones pour voir, en fait, qu'est-ce qui est déjà mis en place dans la région. Parce qu'on sait qu'il y en a des services, mais ils sont toutes faites de façon distincte, donc en silo. Puis, un peu, là, on veut voir qu'est-ce qui est déjà mis en place. Est-ce qu'ils considèrent que c'est efficace? Qu'est-ce qui devrait être amélioré? Tout ça. Donc là, on est encore à cette phase-là. Donc là, une fois que cette cahier de données-là va être terminée, après ça va être possible, justement, d'aller plus vers la création en tant que telle de la table de concertation. Puis justement, on garde en note les noms des acteurs qui participent à notre entretien parce qu'il y en a plusieurs qui, c'est des gens qui, justement, travaillent auprès d'Autochtones au quotidien. Donc, on leurs noms, c'est ceux-là qui sont intéressés beaucoup, ils nous le mentionnent déjà. Donc, on a déjà quelques noms de personnes qui sont intéressées. C'est sûr qu'on aimerait ça aussi intégrer à la table de concertation ben, des jeunes autochtones eux-mêmes quand même, là, parce que c'est quand même important d'avoir justement ceux qui sont les principaux concernés. Mais généralement, ça va être des gens du milieu scolaire qui soutiennent la réussite éducative des jeunes autochtones, en fait. Ça peut être une travailleuse sociale qui travaille en milieu scolaire puis qui rencontre beaucoup d'Autochtones. Ça peut être une psychologue ou quoi que ce soit, mais généralement, on veut des gens qui travaillent au quotidien là, avec les jeunes autochtones.
Ça répond à ta question, Sophie? Oui. Est-ce que j'ai une autre volontaire pour parler de son projet, de ce qui la passionne? Oui, Sophie.
Bien, en fait, je pourrais poursuivre parce qu'il y a un peu un lien d'apparenté là, avec le projet d'Émilie, donc pas du tout par rapport à l'objet, mais plus par rapport au type de questionnement qu'on peut avoir parce que moi, dans mon projet, je m'intéresse aussi à comment on peut mieux soutenir les enseignants. Donc, toi, c'est au niveau plutôt des élèves, là, mais moi, c'est au niveau des enseignants. Donc, on sait que des pratiques innovantes en éducation, il y en a quand même plusieurs. Des pédagogies qui demandent la transformation justement de pratiques enseignantes, des enseignants qui ne sont pas toujours confortables avec ça. Et moi, je vais me questionner sur une de ces approches pédagogiques-là qui est considérée comme une pratique innovante, qui est la coélaboration de connaissances, surtout utilisée au primaire, au secondaire, mais qui est à tous les niveaux, évidemment, là, au postsecondaire également, mais au Québec, c'est quand même beaucoup promu au niveau primaire et secondaire. Et je me questionne sur les pratiques d'accompagnement des enseignants qui vont mettre en place ce genre d'approche pédagogique-là. Donc, pour aller essayer de voir qu'est-ce qui va correspondre le mieux à leurs besoins. Donc, moi aussi, je vais dans une perspective où je vais aller questionner des enseignants. Probablement que ça va être avec un bassin un peu plus grand parce que ce ne sera pas des entrevues, mais vraiment sous forme d'un questionnaire. Donc, pour aller voir qu'est-ce qui correspond bien à leurs besoins d'accompagnement pour être en mesure de transformer leurs pratiques et d'arriver à l'intégration, je dirais, là, dans plusieurs disciplines de leur quotidien scolaire, de leur pratique enseignante, à mettre en place la coélaboration de connaissances. Donc, c'est dans la même visée. Et moi, ce que je me suis intéressée à ce sujet-là, c'est parce que moi-même, dans le fond, j'étais enseignante et pendant longtemps, j'ai tenté de me former, de me soumettre, de me questionner sur la collaboration de connaissances et j'ai reçu de l'accompagnement. Et après ça, j'ai pris un autre rôle où j'ai commencé à accompagner des enseignants aussi. Et là, je me rends compte, en fait, que dans l'accompagnement, il y a vraiment plusieurs volets qu'on peut avoir, un accompagnement direct, un accompagnement proximal, un accompagnement, bien, des fois, qui va être indirect par le partage de documents, mais qui est aussi porteur pour les enseignants. Et je me rends compte également que selon, en fait, la personne, des fois, qui accompagne l'enseignant ou le groupe d'enseignants, il peut y avoir des distinctions dans la manière dont ils vont percevoir, en fait, l'approche. Est-ce que ça va être trop complexe ou, au contraire, ils vont la percevoir de manière très positive et ils vont avoir le goût d'y adhérer. Donc, c'est toute cette réalité-là qui m'a amenée à me questionner et à vouloir m'engager de manière très importante là, dans le doctorat.
Merci. Merci, Sophie. Est-ce que, Pascaline, tu lèves la main pour une question? Oui, alors, je te donne la parole.
Oui, écoutez, Sophie, c'est très intéressant. Et là, ben, ma question n'est pas directement liée à son objet de recherche, quoi que ce soit, mais plutôt une question de comment elle fait, en fait, pour ne pas souvent mettre la casquette d'enseignant, formateur devant, parce que là, tu vas rédiger la thèse, donc ça fait que tu as la réalité des enseignants, des formateurs, tu as toi-même vécu, et maintenant, tu veux aller voir, mesurer les choses. Ça veut dire qu'il faut faire très attention pour ne pas souvent avoir la casquette d'enseignant, de formateur. Là, il faut toujours avoir la casquette de chercheur pour pouvoir voir les choses de loin, pouvoir bien les analyser, là. Ce qui n'est pas toujours évident, ben, je me demande comment tu fais ou comment tu vas faire pour pouvoir mener à bien cet aspect-là.
Bien, je pense en fait que je ne peux pas me dissocier, donc je ne pourrai jamais enlever de moi la part d'enseignante et c'est peut-être aussi ce qui me rend plus sensible à mon sujet. Mais cela dit, il faut quand même, je pense que la manière dont je vais me protéger, je dirais, de ça, ça va être vraiment d'y aller par les données. Donc, qu'est-ce que les données vont m'amener pour demeurer le plus objectif possible face à ce que les données vont me présenter et non face à ce que moi, je vais percevoir. Donc, j'ai l'impression que ça va être de cette manière-là parce que lors de ma maîtrise, en fait, j'ai vécu exactement la même situation puisque j'analysais les pratiques en lecture dans une classe multi-âge, dans des classes multi-âge. Je m'intéressais à ça et j'étais moi-même enseignante dans une classe multi-âge. Donc, mais ça ne veut pas dire que, dans le fond, ce que j'observais et ce que j'ai obtenu comme données, c'était nécessairement ce que moi, je vivais dans ma pratique et ce que j'observais. Donc, je me suis vraiment fiée à ce que les enseignantes, à ce que les données m'ont amené pour réussir à justement avoir une validité, mais aussi avoir un lien, puis un arrimage qui était très, très fort. Donc, je crois que ça va être de cette manière-là que je vais pouvoir bien analyser puis rendre le tout crédible aussi.
Merci, Sophie. Moi, j'ai une petite question aussi pour toi, Sophie. Tu parles de besoin d'accompagnement, puis on est en temps de COVID, ça a complètement modifié notre manière de faire. On est tous un peu ébranlés. En tout cas, je vais parler pour moi, mais moi, je suis ébranlée dans mes manières de faire, honnêtement. Et je me demande, toi, est-ce que tu penses ou en quoi est-ce que tu penses que la COVID va avoir modifié, là, sans avoir tes données, mais est-ce que tu peux projeter dans quoi les besoins d'accompagnement vont s'être modifiés?
Ben, puis ils sont, en fait, ils sont déjà en modification. Moi, dans le cadre de mon travail, j'accompagne des enseignants présentement dans des classes à distance et je le fais depuis le mois de mars. Donc, parce que déjà, dès le mois de mars, il y avait déjà des enseignants qui souhaitaient travailler de cette manière-là à distance avec leurs élèves. Et qu'est-ce qui va avoir changé? C'est assurément le niveau d'appropriation technologique qui est beaucoup plus grand et où est-ce que la limite de la technologie fait moins peur que ce qu'elle faisait. Mais au-delà de cette appropriation technologique-là, c'est qu'est-ce qu'on fait de la technologie. Donc, parce qu'on a bien beau être à l'aise au plan technique à travailler en visioconférence, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va enseigner de manière, je dirais, adéquate pour, selon les différentes compétences, que ce soit au primaire ou secondaire, voire ailleurs, avec l'outil technologique. Donc, je crois que ce que ça va avoir changé, c'est l'appropriation technologique et ça va être aussi le droit d'innover. Parce que comme en ce moment, les balises ne sont pas encore très bien définies au niveau de l'enseignement à distance, au niveau du travail à distance, on est dans une période où est-ce que c'est très riche, très foisonnant. Donc, le droit d'innover est présent, ce qui nous permet, à mon avis, d'arriver dans des contextes plus grands. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que moi, ça fait au moins 6 ans, si ce n'est pas plus, que je souhaitais faire une présentation de la rencontre de parents à mes élèves en virtuel. Parce que moi, je trouve ça complètement ridicule que plusieurs parents aient à se déplacer un soir pour 30-45 minutes pour venir assister à une rencontre de parents. Mais jamais j'aurais eu le droit de le faire dans les dernières années. Alors que maintenant, bien, il y a plein d'enseignants. Je disais à mon conjoint cette semaine, j'aurais tellement aimé animer une rencontre de parents cette année, justement pour pouvoir le vivre. Donc, ça donne le droit à cette innovation-là qui est, à mon avis, nécessaire en éducation et qui n'est pas toujours, malheureusement, réalisé.
Merci, Sophie. C'est bien d'entendre du positif des effets de la COVID. Merci. Alors, la parole est à Catherine ou à Pascaline. Qui veut poursuivre? Alors, Catherine, je te donne la parole.
En fait, je peux y aller dans la continuité de la technologie. En fait, personnellement, j'ai travaillé auprès d'adolescents et auprès d'adultes principalement là, lors de ma brève carrière, disons. Et puis, je me suis rendu compte d'un commentaire qui revenait souvent de la part des enseignants, c'est que les élèves, les étudiants jouaient trop aux jeux vidéo. Puis on disait, ah là, ils ont joué aux jeux vidéo tard hier, ils sont arrivés aujourd'hui, ils n'étaient pas aptes au travail, ils étaient fatigués, épuisés. Puis, à un moment donné, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser le jeu qu'on utilise à la maison pour apporter des bénéfices en classe. Avec ça est venu le plan d'action du numérique du gouvernement, la nouvelle compétence numérique qui encourage autant les enseignants que les élèves à utiliser la technologie en classe. Et puis, on a vu un besoin criant quand même chez les adultes d'avoir de nouveaux outils parce que c'est très rare qu'on ait du matériel chez les adultes. Régulièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte du matériel du secondaire pour l'enseigner aux adultes. Puis, je crois qu'en quelque part, c'est un grand manque parce que c'est une clientèle très, très, très différente, c'est des apprenants très différents. À la maîtrise, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un programme d'intervention métacognitive. Donc, je voulais amener les apprenants à réfléchir sur leur manière de travailler et d'apprendre. Puis, je voulais aussi les amener à réfléchir sur leur pratique lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo d'action. Donc, j'ai fait une étude de cas. J'ai mené une étude de cas auprès d'un étudiant à la formation générale des adultes qui avait des difficultés en écriture. Et puis, je l'ai amené à se demander qu'est-ce que les jeux vidéo pouvaient lui permettre de faire, d'améliorer en écriture. On a trouvé, en faisant de la lecture, que trois fonctions exécutives principales pouvaient être améliorées. Donc, on avait la mémoire de travail, la flexibilité aussi. Puis, on avait le contrôle de l'inhibition qui était vraiment très, très, très travaillé lors des jeux vidéo, puis qui était essentiel aux compétences en écriture. Donc, tranquillement, pas vite, l'étudiant s'est mis à comprendre que ce qu'il faisait à la maison, dans son temps personnel, où il n'avait pas besoin de se poser des questions pour apprendre, pouvait être utile. Puis ma recherche est quand même menée à des résultats permettant de croire que ça pourrait être un outil qui serait pertinent. Maintenant, au doctorat, ce qu'on veut faire, c'est en fait voir si les professeurs, les enseignants qui enseignent à la formation générale des adultes pourraient utiliser cet outil-là d'intervention dans leur classe d'abord. Et puis ensuite, est-ce que les retombées qu'on a vues auprès de mon participant pourraient à grande échelle s'appliquer encore à plus de personnes et dans le temps? Est-ce que les changements seront durables dans le temps? Donc après un an, est-ce qu'on voit encore les améliorations qu'on a vues ou est-ce que c'est immédiat après avoir suivi le programme d'intervention qu'on se rend compte qu'il y a des améliorations? Donc, pour moi, la motivation, c'est vraiment l'utilisation de la technologie. Puis je me dis, à défaut de pouvoir amener toujours cette technologie-là en classe, pourquoi pas rentabiliser le temps, si on veut, puis dire que nos moments de jeu, nos moments de détente pourraient nous aider à faire des apprentissages puis à améliorer nos compétences en écriture.
Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour oui, Alban?
Oui, merci pour cette présentation. Moi, c'est une toute petite question. En fait, j'ai appris il y a peu de temps, en fait, tous les bienfaits des jeux vidéo, quoi. Alors, je ne m'étais pas vraiment intéressée à la question, pour tout dire, mais voilà, j'ai vu que tous les clichés que j'avais sur les vidéos n'étaient pas vrais, et, avec des preuves, etc. Donc déjà, voilà, c'était un premier pas pour moi. Et là, en fait, je ne crois pas que tu y as répondu, puis c'est normal parce qu'on a un peu de temps, mais qu'est-ce que tu as vu dans ce que tu as conçu, si j'ai bien compris? En fait, quels sont les éléments qui sont hautement pertinents pour toi dans ton programme? Je ne sais pas si je suis très claire quand ma question est très claire, mais...
En fait, on s'est surtout concentré sur les jeux vidéo d'action, donc qui nécessitent quand même une grande gestion rapidement. Puis, on a aussi les jeux de stratégie en temps réel où on doit gérer beaucoup, beaucoup de ressources. Tout ça simultanément en fonction de l'attaque du camp adverse, par exemple, de la gestion des ressources, de l'exploration du territoire, donc qui demande beaucoup de gestion. Si on fait un comparatif avec l'écriture demande énormément de gestion, puis c'est un processus complexe qui est itératif, on retourne toujours au même moment. Donc, on planifie une idée, on planifie une phrase, on va la mettre en texte, on va l'analyser si on veut pour savoir si elle dit ce qu'on veut dire, si elle est à notre goût, on va la corriger, puis on va faire ça jusqu'à ce qu'on trouve que notre texte soit approprié. Cette gestion-là nécessite énormément de capacité cognitive, la mémoire de travail, entre autres, qui va gérer toutes les informations. Et puis, les jeux d'action, et que ce soit stratégie en temps réel ou tireur à la première personne, vont vraiment aider à développer cette mémoire de travail-là, de gérer partout en même temps. Ensuite, on a le contrôle de l'inhibition, qui est très, très, très utilisé encore en écriture, parce qu'on doit contrôler nos idées pour savoir lesquelles on met sur papier, lesquelles on rejette. Ensuite, on doit rejeter une orthographe qui est erronée pour choisir celle qui est appropriée. Ensuite, on doit quand même s'empêcher peut-être de penser à autre chose pour vraiment se centrer sur la tâche. Puis, cette gestion-là d'inhibition est encore une fois développée en partie lorsqu'on joue aux jeux vidéo, parce qu'on doit quand même s'empêcher de faire une action au profit d'une autre. Par exemple, si je joue à un jeu de tireur à la première personne, ça se peut que je vois un ennemi tout près puis que j'envoie un autre plus loin, mais que je priorise celui qui est plus loin, par exemple, parce que c'est lui qui est la plus grande menace pour mes collègues en arrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'empêcher, mon premier réflexe, d'intervenir sur le plus près pour aller attaquer celui qui est plus loin. Donc, à ce moment-là, on voit que le contrôle de l'inhibition est aussi développé grâce aux jeux vidéo, puis qu'on peut l'utiliser en écriture. Finalement, lorsqu'on utilise la flexibilité, bien, la flexibilité cognitive, c'est ce qui va nous permettre vraiment de changer nos idées en cours d'écriture, d'être capable de modifier un plan, de modifier l'orthographe en se corrigeant. Donc, c'est ce qui nous permet de se mettre aussi du point de vue d'une autre personne pour se dire, par exemple, bien, est-ce que si je suis le lecteur, je comprends bien l'idée qui est derrière le texte? Cette capacité-là est aussi développée lorsqu'on joue aux jeux vidéo, notamment, par exemple, lorsqu'on doit changer rapidement de tactique. Ça peut être aussi lorsqu'on doit jouer contre une équipe, puis qu'on va se demander qu'est-ce que l'équipe ferait à ma place, donc où est-ce qu'elle pourrait se cacher, où est-ce qu'elle pourrait faire une embuscade et où nous, on doit intervenir, est-ce qu'on doit changer de stratégie, est-ce qu'on doit continuer. Puis, ces différentes habiletés-là sont particulièrement sollicitées dans les jeux d'action, que ce soit tireur à la première personne ou stratégie en temps réel. Puis il y a énormément de recherches qui montrent que même chez, par exemple, les personnes qui sont à l'âge d'or et qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, qui commencent à avoir des pertes cognitives, bien, on retrouve un regain, si on veut. On leur permet de redévelopper ces différentes structures cognitives-là pour qu'elles deviennent encore plus fortes. Donc, les jeux vidéo semblent vraiment avoir un lien direct avec l'écriture, puis on pense qu'on serait capable vraiment d'utiliser ces outils-là là, pour aider les apprenants, notamment les apprenants adultes qui ont quand même plus de ressources auprès des jeux vidéo, puis qui peuvent choisir de manière consciente et très éclairé ce qu'ils font comme choix de jeux vidéo, même lorsqu'il y a de la violence dedans.
Donc, merci Catherine. Moi, je fais une petite prédiction pour Catherine. Ça va être facile de trouver des participants à son étude. Ce qui est plutôt rare dans notre projet de recherche. Donc, on va terminer avec Pascaline. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce qui te passionne dans ton projet?
Oui, moi je suis passionnée d'éducation inclusive, c'est-à-dire l'éducation des personnes en situation de handicap, notamment la déficience intellectuelle. J'ai travaillé sur leur apprentissage à ma maîtrise et là je continue dans la même lancée, l'éducation inclusive. Et là je m'intéresse vraiment au sentiment d'appartenance. Les questions que je me suis posées, je me suis demandé, parce qu'à ma maîtrise, j'ai remarqué que ces enfants-là, notamment ma maîtrise a été faite au Burkina Faso, ces enfants sont dans les classes dites inclusives, mais souvent, ils sont là pour être présents. C'est comme si c'était juste une inclusion sociale, mais il n'y avait pas d'apprentissage en tant que tel. Les enseignants sont formés, mais c'est comme s'ils n'arrivaient pas à amener la motivation. Donc, les élèves souvent étaient là en classe, ils participaient à certaines activités, mais d'autres, ils ne s'y intéressaient pas. Et ce qui m'a poussé à me poser la question, est-ce que ces enfants-là se sentent même comme les autres enfants? Qu'est-ce qui pourrait les pousser à vraiment s'intéresser aux activités, que ce soit les activités pédagogiques dans la classe ou les activités hors classe? Qu'est-ce qui pourrait les motiver? Et c'est pour ça que je me suis cantonnée maintenant sur le sentiment d'appartenance. Parce que plus l'enfant se sent à part entière du groupe classe, plus il va s'investir dans les activités pédagogiques, que ce soit en grammaire, en mathématiques ou en sciences. Et plus l'enfant a un sentiment d'appartenance assez élevé, plus dans les activités extrascolaires, l'enfant va pouvoir s'investir. Et en plus de la déficience intellectuelle, on sait tous que ça demande beaucoup d'implication de la part des enseignants qui devraient aussi avoir une formation bien avisée pour pouvoir les motiver dans la classe. Voici grosso modo, de façon ramassée, ce pourquoi je m'intéresse au sentiment d'appartenance.
Merci Pascaline. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Oui, Catherine?
En fait, ma question, c'est par rapport à la manière dont vous allez vous y prendre pour voir le sentiment d'appartenance auprès des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Est-ce que vous croyez faire ça avec des discussions? Est-ce que vous allez faire des observations pour voir peut-être leur niveau d'intégration dans les activités? De quelle manière vous avez prévu ou vous avez déjà collecter en fait ces informations-là?
Oui, c'est effectivement, je me suis posé la même question au début quand je menais la réflexion, parce que c'est sûr qu'il y aura des enfants avec la déficience qui peut-être ne pourront pas s'exprimer. Il y a déjà il y a une échelle de mesure du sentiment d'appartenance, mais c'est pas, ça ne sera pas évident pour tous les cas, vu que chaque cas est vraiment différent. Il y a la déficience intellectuelle dite légère où l'enfant, quand même, a des aptitudes. Ces enfants-là pourront peut-être passer le test, mais j'ai prévu, vu la situation, j'ai prévu quand même différentes manières de pouvoir mesurer cela. Comme tu l'as dit, des observations. Et je pense que je vais passer aussi par les parents et l'enseignant et l'enfant en plus, avec les tests, les observations et puis les questions, la participation aux activités, le comportement, tout sera pris en compte.
Merci, Pascaline. Donc, en terminant, j'ai juste une dernière question. C'est pour terminer. Je vais vous demander de vous projeter. Vous venez d'obtenir votre doctorat. Vous êtes content. C'est la fête. Après le champagne, on retourne à la réalité. Et si vous deviez me dire juste une chose que vous aimeriez voir de changer sur le terrain à partir de vos résultats de recherche, juste une chose que votre recherche arrive à modifier sur le terrain qui vous concerne, quelle serait cette chose? Donc, est-ce que j'ai une volontaire? Catherine?
Ce que j'aimerais que ça ait changé, en fait, c'est qu'on prenne plus en considération les intérêts des apprenants, non seulement à l'école, mais aussi en dehors de l'école, pour être capable de les intégrer encore plus en classe, puis que ce soit peut-être un peu plus un plaisir d'aller à l'école et d'apprendre.
Ah, merci Catherine. Reconnaître qu'ils apprennent à l'extérieur de l'école. Pascaline?
Oui, moi, ce que j'aimerais voir une chose changer, c'est que les enseignants comprennent que les enfants en situation de handicap sont capables d'apprendre dans les classes, qu'ils peuvent être motivés dans les apprentissages, apprendre comme les autres enfants. Oui.
Merci, Pascaline. On souhaite que ça se passe après le dépôt de ta thèse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre à ma question? Oui, Alban.
Moi, j'aimerais bien que dans les programmes humanitaires, il y ait vraiment une réponse artistique, qu'elle ne soit pas considérée comme de l'amusement ludique ou alors quelque chose d'impossible parce que c'est la guerre, mais justement qu'en fait, que ce soit crédible et qu'il y ait des contenus de qualité, quoi. Que vraiment, il y ait des programmes solides où on ne fait pas que dessiner Bob l'éponge, mais que vraiment on fasse parler les cultures, les identités, les environnements, voilà. Que ce soit une réponse humanitaire.
C'est un très bon résultat de recherche. On comprend pourquoi c'est la recherche en vous écoutant toutes. Est-ce que Emily et Sophie, vous voulez ajouter? Emily?
Moi, je peux y aller, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est principalement que les acteurs qui soutiennent la réussite éducative des jeunes autochtones, en fait, qu'on soit conscient aussi peut-être plus que de notre réalité de colonisateur, même si c'est quand même loin, qu'on a quand même imposé ce mode d'enseignement-là à l'européenne, aux autochtones, puis qu'on prenne davantage en considération leur discours, leurs besoins dans l'implantation de services qui les concernent, puis qu'on élargisse ça même pour toute autre population en général, là, c'est qu'on s'intéresse davantage, prenne des décisions qui viennent par le bas et qui sont de la population concernée, puis qu'on les applique plutôt que de prendre le savoir et qu'on l'applique à la population.
Merci, Emily. Et le mot de la fin pour toi, Sophie?
Mon Dieu, ça met beaucoup de pression. Ben, moi, c'est sûr que c'est directement en lien avec mon objet, donc je souhaiterais que les enseignants se sentent et soient mieux accompagnés pour favoriser une transformation de pratique dans cette approche pédagogique-là de coélaboration de connaissances, pour favoriser la réussite des élèves, parce qu'on sait que des enseignants qui enseignent avec cette ouverture, avec cette collaboration qu'il peut y avoir en classe, favorisent la réussite des élèves. Donc, c'est évidemment les premiers au cœur de notre système éducatif.
Donc, c'est ce qui met fin à notre podcast. Je vous remercie. C'était vraiment fort intéressant de vous entendre. J'ai hâte de lire les articles qui vont suivre votre thèse, entre autres. Donc, un grand merci à Émilie Saint-Pierre, Catherine Vachon, Sophie Nadeau-Tremblay, Alban Buriel et Pascaline Pacmogda. Merci à vous toutes.
Merci. Merci.
Merci beaucoup.